Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 85. Cet entretien est avec Muriel Glatin, que j'ai rencontré grâce à mon ami Antonio Mezza. Muriel est spécialiste dans le marketing relationnel cross-canal et la géolocalisation. Dans cet entretien, nous parlons des enjeux et comment les marques et enseignes peuvent utiliser et profiter de cette technologie, notamment grâce à la démocratisation des smartphones. C'est un domaine très important qui offre beaucoup d'opportunités pour le marketing de demain. Muriel propose aux éditeurs de ce podcast une place offerte pour son masterclass qu'elle fait sur le sujet de la géolocalisation dans le cadre du Cercle Marketing Direct à Paris en mars 2014. Il y a 5 places à gagner. Il suffit de prendre contact avec Muriel, soit par Twitter ou par LinkedIn, en précisant Minterdial, mon nom. Les détails seront dans les show notes sur minterdial.fr, comme d'habitude. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Aujourd'hui, on va parler géolocalisation, in English geolocation. Muriel Glatin, explique-nous qui es-tu et ce que tu fais.
Bonjour Minter. Alors, moi, je suis à l'origine, j'étais une statisticienne qui a mal tourné, j'allais dire, puisque je suis passée du côté du marketing. J'ai travaillé de nombreuses années dans des sociétés de vente à distance pour manager justement toute leur base client. Et puis ensuite, je suis passée de l'autre côté de la barrière en rejoignant donc des agences de marketing service, Pageau de Marketing Service, qui est une filiale du groupe Solocal aujourd'hui, hein, qui est dédiée donc au marketing relationnel, Mediapost plus récemment, donc la filiale de La Poste, dédiée encore une fois à la communication commerciale. Voilà, et aujourd'hui, donc, mon terrain de jeu, bah, c'est toujours le même, c'est le marketing relationnel, cross-canal, avec un triptyque qui est un petit peu ma marque de fabrique, à savoir un mix entre mes expertises marketing, data et digital. Et 2014, pour moi, ça va être une année importante, puisque ça va signer, en fait, la création d'une structure, d'une société que je vais monter donc, en collaboration et qui va s'appeler la route du client.
Génial. Que la route soit bonne, Muriel. La route 66, peut-être. En fait, on parle de géolocalisation. C'est un mot qui devient de plus en plus connu. Mais c'est quoi la géolocalisation, en fait?
Alors, effectivement, c'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Parce que la géolocalisation, je me suis rendu compte que c'était un terme à la fois un peu banalisé aujourd'hui parce que régulièrement, votre smartphone vous interpelle en vous demandant si vous souhaitez et acceptez d'être géolocalisé. Et en même temps, j'ai eu l'occasion, donc à l'occasion de la rédaction d'un ouvrage dédié à la géolocalisation, d'interviewer un certain nombre d'acteurs, des marketeurs en particulier. Et là, je me suis rendu compte que la notion était à la fois connue, mais pas très bien définie, dont on ne comprenait pas exactement les contours, le périmètre. Et moi, en tant que marketeur, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter ? Voilà, donc c'est un petit peu déjà ce constat que j'ai fait par rapport à la géolocalisation. Et si je devais donc définir cette géolocalisation, c'est le principe, en fait, de positionner dans l'espace un individu, donc de connaître effectivement ses coordonnées géographiques,
longitudinales
et latitude. C'est un principe qui est à la fois ancien, puisque effectivement le principe de poser un individu, de repérer géographiquement un individu, j'étais en capacité de le faire déjà il y a 20 ans avec son adresse postale. Maintenant, avec l'avènement du smartphone, la géolocalisation a fondamentalement changé, puisque aujourd'hui, on est en capacité, et ça c'est fondamentalement nouveau et ça a de nombreux impacts justement pour les usages marketing, on est en capacité de savoir de connaître donc la position de l'individu alors qu'il est en mobilité. Ça, c'est un premier point, vraiment très, très nouveau. Hein. Autre point également intéressant, hein, c'est le fait que cette information, je peux en disposer en temps réel. Hein. Voilà, donc mobilité et instantanéité, j'allais dire, sont les deux nouveaux facteurs qui définissent cette géolocalisation et qui, du coup, a ouvert tout un champ donc, d'usage et d'application qui était juste impensable il y a encore 10 ans.
Alors, derrière géolocalisation, il y a aussi geofencing. Ouais. Ça veut dire quoi ?
Alors, effectivement, geofencing, c'est un nom qui est, par contre, beaucoup moins connu et compris donc par les individus. Il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, en France, le geofencing est encore au stade exploratoire. Donc, geofencing, c'est quoi ? C'est le principe de délimiter, en fait, une zone virtuelle autour de l'individu. Ou autour d'un centre commercial, ou autour d'un magasin, ou même autour d'un événement éphémère, comme un concert, par exemple. Et à partir donc, de cette définition de zone virtuelle, on va être en capacité, donc, de, grâce justement aux terminaux que l'individu porte avec lui, principalement donc, le smartphone, de savoir qu'il a pénétré donc, cette zone virtuelle. Et donc, en termes de marketing, le geofencing va pouvoir me permettre de savoir que Muriel Glatin est rentrée, donc est proche de mon magasin, et de lui envoyer, donc de lui notifier un message qui peut se présenter sous forme d'alerte sur votre smartphone ou sous forme de SMS et qui va m'inviter à venir me rendre donc dans ce magasin pour bénéficier d'une remise exceptionnelle, d'une promotion à durée extrêmement limitée, par exemple.
Alors, je suis interpellé parce que tu parlais du smartphone. Est-ce que c'était pas ou ce n'est pas possible de le faire avec un feature phone, donc qui n'est pas forcément juste un web browser et tout ça?
Le geofencing, on peut le faire aussi donc avec des téléphones portables non smartphones. Il en existe encore, hein, puisque en France, le taux d'équipement des smartphones est d'environ un Français sur deux. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de personnes équipées de téléphones classiques. C'est également possible. Il y a une société aux États-Unis hein, qui s'appelle Placecast, hein, qui a développé donc toute une plateforme qui permet d'opérer justement des campagnes de géolocalisés hein, et qui fonctionne justement sur tout type de terminaux. Hein. Dans ce cas-là, par contre, le message que vous allez recevoir, c'est un SMS et non pas une alerte.
Ouais. Alors, quand on parle de géolocalisation, notamment ici avec le CNIL et on va dire donc la culture française, on peut avoir peur. C'est-à-dire que c'est le Big Brother is watching over you, mais dans le sens un peu négatif. Comment est-ce que tu abordes le sujet quand tu parles avec des gens du marketing et en combien est-ce qu'il faut tenir en compte le point de vue du consommateur?
Alors, le sujet donc effectivement de la géolocalisation et du respect de la vie privée, hein, c'est un grand sujet aujourd'hui. Hein. L'actualité nous pointe régulièrement donc ce sujet-là, hein, et ça a eu pour effet effectivement de sensibiliser particulièrement les individus hein, qui n'avaient pas forcément conscience de tout ce qu'on pouvait faire sur l'usage de leurs données. Quand on interroge les individus, alors on a plein de sons de cloche. C'est très difficile, effectivement, de dire ils sont pour, ils sont contre. Il y a une étude, et il y en a plein qui ont été diffusées donc, l'année dernière. J'en ai une en tête en particulier, qui est celle du SNCD, le Syndicat National de la Communication Directe en France, et qui a fait une étude auprès de Mobinote et de Tablonote pour justement avoir leur perception du principe de recevoir des promotions en mode géolocalisé. Et à cette question-là, en fait, il y a 60% des répondants, ce qui est donc un taux important, hein, 60% des répondants qui déclarent être tout à fait d'accord sur ce principe-là. Bon, en même temps, il y a d'autres études, une en particulier du Crédoc, qui met en avant que 80% des individus revendiquent à ce que l'information géolocalisée, de la géolocalisation, soit une information qui ne soit pas diffusée. Et de la même façon, il y a une étude qui a été faite par un think tank, Demos, qui classe en fait les différentes données, hein, que ce soit vos données donc, relatives à vos données médicales, vos données de comportement d'achat, de centre d'intérêt. Hein, et dans tout ce grand ranking, en fait, on constate que la donnée de géolocalisation, hein, est perçue par les individus comme véritablement une donnée extrêmement sensible, une donnée qui touche à la vie privée, hein, puisqu'elle est certes moins considérée considérée comme moins sensible que les données médicales, mais largement plus privée que vos déclarations de centre d'intérêt ou vos comportements d'achat. Donc, l'individu, par rapport à ça, effectivement, on parle de privacy paradox dans les études des chercheurs marketing. C'est qu'ils sont un petit peu schizophrènes. Ils ont un petit peu cette ambivalence. D'un côté, ils ont bien conscience qu'effectivement, la géolocalisation, ça leur apporte plein de services, ne serait-ce qu'effectivement pour faciliter ses déplacements, savoir repérer facilement, effectivement, le point de vente le plus proche d'où je me trouve, les bonnes promos à côté de chez moi. Hein. Et puis, en même temps, très soucieux de la manière dont les entreprises vont s'approprier cette information, vont l'exploiter, la conserver, hein, et la travailler. Donc, par rapport à ça, en France, il n'y a pas de loi spécifique, hein, qui encadre la géolocalisation. Donc, c'est un petit peu un vide juridique. Par rapport à ça, aujourd'hui, on se raccroche à deux cadres réglementaires, que sont donc la loi informatique et liberté, qui porte justement sur la manière dont on exploite donc les données privées, hein, et la LCEN, donc la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui donne donc des règles du jeu en matière d'exploitation de la communication directe par voie électronique. Voilà, donc ce sont ces deux grands cadres réglementaires qui vont aujourd'hui donc être les référents en matière d'exploitation de la géolocalisation pour les entreprises.
Quand on parle avec le marketing a ce talent d'abuser chaque canal, chaque possibilité de booster mon chiffre d'affaires. Quelque part, en parlant avec les marketeurs, j'ai tendance à mettre en avant l'intention. Si l'intention et la foi est bonne, l'acceptabilité est meilleure. Comment est-ce qu'on peut arriver à combler à la fois résultat, performance, il faut faire son chiffre, avec la bonne intention?
C'est effectivement un grand sujet et je l'ai souvent abordé effectivement avec des acteurs qui développent des solutions justement en matière de géolocalisation, des plateformes pour opérer ce type de campagne. Et régulièrement, effectivement, le point que j'adressais, hein, c'est comment on gère effectivement cette pression commerciale de façon à faire que je ne reçoive pas régulièrement, trop fréquemment, donc des sollicitations, hein, d'autant plus que ce canal-là a effectivement donc le bénéfice d'avoir un impact très important. Donc effectivement, en termes de ROI, hein, les expériences, par exemple, tout à l'heure on parlait du geofencing, les actions et les opérations qui ont été faites en matière de geofencing montrent des résultats très probants. Il y a une expérience en fin 2012 montée par une société lilloise qui s'appelle Fosséis, et qui a monté donc une opération pilote avec un magasin du groupe Auchan dans le nord de la France, qui reposait donc sur ce principe-là, que de pousser effectivement des promotions pour les clients Auchan ayant téléchargé l'application. Le résultat était très probant, à savoir qu'effectivement on a des taux de réaction. Alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais pour avoir parlé avec PlaceCast, quand c'est bien ciblé, on peut avoir des taux de rendement qui avoisinent entre les 10 et 20%. Donc c'est très fort. La contrepartie effectivement donc de cette performance, c'est que il faut en user avec parcimonie, hein, et bien maîtriser effectivement ce canal-là.
Mais pour ne pas parler des 80 à 90% qui n'ont pas ouvert et qui ont peut-être eu des pensées un peu moins positives par rapport à ceux qui l'ont ouvert.
Alors déjà, donc, pour adresser justement ce sujet que de ne pas tomber dans de l'hyper sollicitation, hein, et ne pas effectivement heurter le consommateur, Il faut effectivement fixer des règles du jeu en matière de fréquence, d'une part. D'autre part, il y a un autre principe qui rejoint celui effectivement de la réglementation qu'on abordait tout à l'heure, à savoir que ce genre de mécanique repose impérativement sur un consentement de l'individu. Mmh. On est dans de l'opt-in. Et même quelquefois, on est dans du double opt-in pour ce type de dispositif. Donc, il est vraiment très important que l'individu soit embarqué, enrôlé, disent certains, dans ce genre de dispositif parce que lui-même a bien compris déjà donc, ce qu'on lui proposait comme service, qu'il l'ait accepté et qu'il soit également en capacité, en quelque sorte, de moduler justement cette pression, voire de se désinscrire si l'action, finalement, ne remplit pas donc, ses attentes. Donc, il y a encore une fois, il y a pas mal d'études, justement, de la part de chercheurs en marketing pour essayer de mieux comprendre les déterminants et les facteurs qui pouvaient expliquer, justement, l'appropriation et l'acceptation de la part des individus du principe de géolocalisation. Alors, la réponse est pas facile parce qu'on ne peut pas l'exprimer comme ça en quelques mots. Il y a plein de variables qui vont intervenir sur justement cette plus ou moins grande acceptabilité. Je pourrais en citer quelques-uns, à savoir déjà le bénéfice offert. Mmh. Comme je dis toujours, accepter donc de s'enrôler dans ce type donc de campagne marketing géolocalisée. Moi, en tant que consommatrice, ça peut avoir du sens et je peux accepter effectivement de recevoir ce type de message à partir du moment où la contrepartie, quelque part, en vaut la chandelle. Si c'est pour récupérer 5 centimes sur un kilo de carottes, je ne vais peut-être pas être forcément très intéressée. Mmh. Et ça, c'était aussi un point très important qui a été mis en avant par la plupart des sociétés que j'ai rencontrées. L'expérience d'Auchan que je citais tout à l'heure, mais il y a une chaîne aussi de cosmétiques Kiehl's aux États-Unis qui a monté aussi des opérations dans ce type-là. De la même façon, voilà, les consommateurs appréciaient ce service rendu et dans ce contexte-là, effectivement, c'est véritablement perçu comme un service.
Mmh. Et pour t'écouter, il y a souvent le chandelle, en fait, va dépendre l'un de l'autre. J'ai écouté avec Target, avec tous ces scandales, avec les 110 millions de comptes hackés, potentiellement, quelqu'un disait, écoutez, pour donner mon numéro de sécurité sociale, j'avais en contrepartie 5% de discount. Ça n'en valait pas la peine, donc je ne l'ai pas pris. Mais pour certains d'autres, peut-être 5%, ça vaut. Comment est-ce qu'un marketeur peut délimiter? Est-ce qu'il y a des plateformes qui permettent de le faire? Comment on fait?
Alors, c'est un petit peu le principe du test and learn, j'allais dire. Généralement, ce genre de dispositif, on le monte, on construit donc tout un plan de test et on commence à voir effectivement la sensibilité justement des individus par rapport à des offres. Ça, c'est un point de méthodologie. Maintenant, au-delà de ça et indépendamment de ça, je pense que c'est important effectivement de bien garder en tête que le bénéfice et la promotion qu'on vous propose, s'il s'agit d'une promotion, est intéressante pour l'individu. Encore une fois, l'expérience faite par Auchan, Fosséisme avait expliqué que les promotions qui étaient mises en avant, c'était des promotions fortes sur des produits à forte valeur ajoutée. Mmh. Dans ce contexte-là, effectivement, c'est accepté, non seulement accepté, mais presque revendiqué de la part de clients. Et en plus, ça peut être jouer comme un levier de fidélisation, c'est-à-dire j'adresse ce type de dispositif à mes seuls bons clients. Mmh. Donc ça, c'est un critère. Après, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte dans l'acceptabilité de la géolocalisation par les clients. Il y en a un qui peut paraître tout bête, mais qui est quand même très, très important, à savoir déjà le niveau de confiance que les individus ont par rapport à cette marque. Donc ça, un point important à l'entreprise et à la marque d'avoir ce niveau de connaissance. Bon, la plupart des entreprises font des études d'image, ça doit pouvoir les renseigner. Et puis ensuite, il y a d'autres facteurs qui sont plus propres donc aux individus eux-mêmes. qui vont en fait dépendre de la cible sur laquelle vous travaillez et sur laquelle vous souhaitez encore plus investir, à savoir qu'il y a effectivement toute une typologie d'individus qui vont se caractériser plus ou moins appétents aux nouvelles technologies. Aux nouveaux services qui vont être plus ou moins matures sur tout ce qui est dispositifs digitaux, dispositifs internet. Donc tous ces indicateurs-là vont dresser un profil de votre clientèle ou de votre base, de votre cible de prospects qui vont vous donner donc des indications et des signaux par rapport justement donc à cette acceptabilité. Et à partir de là, voir si effectivement ça vaut la peine, ça peut être bien accepté ou au contraire, ça va être un investissement qui ne va pas rencontrer d'intérêt de la part de votre clientèle.
Alors, on va parler un peu geek quelques instants. On va parler de plateforme parce que je m'y connais pas. Est-ce que quand il y a un marketeur qui écoute, écoutez, j'ai envie de travailler sur la géolocalisation. Quel type de plateforme y a-t-il ? Donne-nous quelques indications de comment et quel type de plateforme tu peux conseiller.
Alors, il y a un certain nombre de plateformes donc, qui existent en matière de géolocalisation dans le domaine donc, de la... Tout à l'heure, on parlait du geofencing. Généralement, ces plateformes vont permettre effectivement d'opérer des campagnes de geofencing. Donc, encore une fois, des campagnes marketing qui sont déclenchées alors que l'individu va pénétrer donc, dans une zone de chalandise. Alors, aux États-Unis, tout à l'heure, je citais Placecast. Placecast a développé une grande plateforme. Malheureusement, ce n'est pas disponible donc, pour la France. En France, on a donc la société Phoceis qui propose ça. La société FeedsUp aussi, c'est une autre expérience, un autre dispositif qui peut être intéressant aussi à avoir en tête. Donc FeedsUp, c'est une toute jeune start-up qui a monté, elle, donc, un dispositif de géolocalisation basé sur une technologie un peu différente des autres, à savoir sur le signal sonore qu'émet les sonos donc, des magasins. À partir de là, donc ce signal-là, il est inaudible pour l'oreille humaine, mais par contre, il est perceptible par les micros de vos smartphones. Donc, je vais pouvoir, via donc ce dispositif-là, pouvoir repérer qu'un individu qui a téléchargé donc l'application d'un centre commercial, par exemple, qui a activé donc cette application, il va pénétrer donc dans son centre commercial. Aussitôt, il va être identifié. Et en contrepartie, j'allais dire, le centre commercial va pouvoir lui envoyer des messages commerciaux qui peuvent être très bien des messages type relationnel, bienvenue Muriel Glatin, ou des messages promotionnels l'invitant à se rendre dans telle ou telle boutique pour bénéficier d'une offre exceptionnelle.
Et parle-nous de back-office alors, parce que je mets en place FeedsUp, je donne des messages. Quel type de bon plateforme y a-t-il pour faire le dashboard, on va dire, pour mesurer l'impact de ce qu'on fait?
Donc, toutes ces plateformes, justement, donc j'ai cité Phoceis ou j'ai cité FeedsUp, ce ne sont pas les seules, donnent donc accès, effectivement, à une interface pour les gens du marketing. Cette interface va leur permettre de construire leur campagne, donc de définir quand est-ce que je veux pousser donc, l'opération, sur quelle cible aussi. Je peux également affiner en fait, mon ciblage au-delà du critère de géolocalisation, qui est déjà un critère très performant. Je peux également, à partir du moment où j'ai cette information disponible, je peux également décider effectivement de ne pousser la campagne que sur les hommes ou que sur les femmes. Cette plateforme va donc orchestrer cette campagne, pousser cette campagne, et en contrepartie, je vais avoir donc un certain nombre d'indicateurs qui va me permettre effectivement de piloter et de mesurer l'efficacité donc de cette campagne et de l'optimiser. Donc les indicateurs assez classiques qui sont le nombre de messages envoyés, le nombre de messages cliqués, et de plus en plus, en fait, l'objectif c'est d'aller jusqu'à l'acte d'achat. De façon à véritablement mesurer le ROI de ce type d'opération.
Hello, this is Gary Chahot welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th-century pirates, revolutionary booksellers in 20th-century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.
Alors, l'acte d'achat, en l'occurrence, est-ce que c'est facile de capter? Parce que je reçois le message, le SMS, je clique dessus peut-être, et j'ai 20%. Est-ce qu'ensuite, il faut le relier quand même au casier pour arriver? Comment est-ce que c'est facile ou est-ce qu'il y a des difficultés? Alors, encore là?
Aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. Encore une fois, donc, aux États-Unis, justement, donc, PlaceCast a cherché à monter à tout un deal, je crois, de me souvenir de tête avec Amex pour faire que tout le parcours client soit la route du client soit complètement donc fluide et en un seul tenant. Aujourd'hui, en France, on n'est pas encore dans ce type de configuration. Donc, quand je bénéficie, par exemple, d'un message qui me propose une promotion, je vais devoir présenter, en fait, cette promotion à la caisse pour pouvoir en profiter. Et ensuite, en fonction donc, du système de caisse qui est mis en place, cette information pourra être éventuellement enregistrée. Idéalement enregistré pour un marketeur de façon à avoir effectivement combien de gens ont activé en fait la promotion poussée.
Alors Muriel, je voudrais juste traverser la problématique de la géolocalisation enseigne et marque. Parce que qui dit enseigne dit j'ai la location, mais qui dit marque veut avoir sa place dans l'enseigne. Est-ce qu'une marque doit essayer de le faire sous seul? Comment est-ce que ça peut se faire s'il n'est pas maquillé avec l'enseigne? Comment ça se passe?
Alors, les marques, là, effectivement, on a beaucoup parlé des enseignes de la distribution, mais les marques sont également concernées par la géolocalisation. Donc, dans la géolocalisation, on a beaucoup parlé de push tout à l'heure, en parlant de geofencing. Mais il y a également tout ce qui est pull, c'est-à-dire donc tous les services qui embarquent de la géolocalisation et qui vont me permettre de me renseigner et de voir effectivement où se trouve, par exemple, un point de vente ou une promotion. Donc dans ce contexte-là, par exemple, j'ai en tête l'expérience de Rossignol, qui est plus qu'une expérience puisqu'ils l'ont déployée. Donc Rossignol, le groupe Rossignol, a mis en place donc en 2012. Donc Rossignol est vendu via un réseau de revendeurs. Et la problématique donc, du marketeur de Rossignol, c'était effectivement de pouvoir donner une information facile à ses clients, à ses prospects, hein, de leur dire facilement, voilà, rendez-vous dans tel revendeur pour trouver les produits donc, du groupe Rossignol. Il faut savoir que Rossignol a 2000 points de vente, 2000 revendeurs. Mmh. Voilà. Et donc, pour adresser ce point-là, ils ont mis en place un module qui instaure Locator et qui va permettre effectivement aux clients, aux prospects, de identifier très facilement le point de vente, le point de revente le plus facile. Donc ça, c'est un exemple pour une marque de l'usage et du bénéfice de la géolocalisation.
Mais la complication pour la marque, c'est que il faut que l'app soit marketée pour qu'il y ait des gens qui l'ont, qui s'en souviennent de l'ouvrir pour essayer de trouver l'enseigne. Donc, il y a encore tout un chemin de marketing, on va dire pré-marketing, pour arriver à le faire connaître.
Ouais. Ça, c'est effectivement, ça, c'est incontestable. Et ça vaut aussi pour les marques, pour les enseignes de la distribution. Alors, ensuite, il y a donc soit effectivement vous opérez tout seul, j'allais dire, c'est-à-dire que vous montez votre. Et à la limite, les démarches ne sont pas du tout exclusives l'une de l'autre. Vous montez votre application, par exemple, il s'agit d'une application en votre nom propre, dans lequel il va y avoir embarqué donc effectivement une fonctionnalité propre à la géolocalisation. Ça, c'est une première démarche. Et puis ensuite, il y a toute une série donc d'applications, de solutions aujourd'hui multimarques mutualisées qui vont vous permettre effectivement de toucher vos individus, alors non pas avec une application labellisée par exemple Occitane ou Rossignol, mais par exemple on parle beaucoup des applications type Plice, type Shopmium qui vont permettre effectivement d'être de diffuser ma promotion en mode géolocalisé, hein, au travers d'une plateforme qui, elle, justement, se charge d'optimiser la visibilité et d'être téléchargée le plus de fois possible par des individus.
Parlons donc d'autres plateformes. Pour la France, c'est Foursquare. Tu es positif ou tu es négatif?
J'allais dire ni l'un ni l'autre. Foursquare, en France, c'est pas si diffusé qu'aux États-Unis. Donc Foursquare, effectivement, il y a tout un module de géolocalisation, il y a le principe du tracking qui va vous permettre effectivement donc de notifier votre présence et d'inviter en fait votre communauté à venir vous rejoindre pour bénéficier encore une fois d'une promotion par exemple.
Est-ce que tu as d'autres que tu préfères dans ce cas-là? RoundMe, Kype, est-ce que tu as d'autres en tête que tu dirais, voilà, je mettrai mon argent là-dessus?
Mon argent là-dessus. Donc, parmi les applications effectivement que je trouve intéressantes, il y en a une qui est dans le domaine du communautaire loisir, que je trouve plutôt sympathique, qui s'appelle Just Around Us, et qui te permet, en fait, tu t'enregistres, tu notifies tes centres d'intérêt, tes loisirs, qui peuvent être sportifs, mais comme dans plein d'autres domaines, culturels éventuellement. Et donc l'application permet de repérer très facilement les individus qui sont à proximité de chez toi et qui partagent ces mêmes centres d'intérêt. Et à partir de là, donc organiser des sorties en commun plutôt que d'aller courir toute seule dans le bois de Sceaux.
C'est français?
Just Around Us, je crois que c'est français, effectivement, malgré le nom.
C'est toujours rigolo parce que il y a tous ces startups qui utilisent un URL, enfin un nom anglais, avec peut-être un objectif de s'internationaliser, bien entendu. Et il y a à côté aussi un peu, je suis un peu plus cool parce que je le dis en anglais, mais Just Around Us parce qu'il y a Around, il y a About, il y a Around Me, il y en a d'autres.
Ouais.
Alors, je sais que tu as pu participer à une conférence sur le sujet des géolocalisations. Avec notre ami Thierry App et NetExplo. Tu étais avec, il y avait Joël de René et parmi d'autres. Qu'est-ce que tu en as retenu? C'était juste avant Noël de mémoire. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette conférence? Qu'est-ce qui est un highlight intéressant?
Donc déjà, effectivement, c'était une conférence qui a eu lieu dans les locaux de Deloitte le 12 décembre, qui réunissait un très beau parterre de conférenciers. Ce que j'en ai retenu, c'est que la géolocalisation, c'est vraiment un sujet effectivement d'actualité. C'est un sujet qui suscite plein de créativité et plein d'innovation. Et ce que je trouve également intéressant, et j'ai pu observer donc cette évolution en quelques temps, c'est qu'il y a encore quelques mois, géolocalisation, c'était quand même très technique, c'était très, très geek. Et je me souviens que quand je rencontrais des start-upers, comme je les appelle, j'étais souvent amenée en fait à les faire reformuler ce qu'ils étaient en train de me proposer parce que je ne comprenais pas vraiment les tenants et les aboutissants. Donc ça, c'est juste une petite anecdote, mais ça démontre bien aussi l'évolution en fait du sujet, hein, l'évolution donc de cette offre qui s'est effectivement vraiment bien marketée, hein. Et aujourd'hui, on est donc à un moment où c'est l'explosion des usages. Et ce que je trouve également intéressant, c'est que même si il y a encore beaucoup d'interrogations de la part des directeurs marketing, des responsables marketing plus généralement, on commence à voir tous les bénéfices que la géolocalisation pourrait avoir moi dans mon business au quotidien. Donc, dans ce sens-là, effectivement, la conférence de NetExpo, hein, je l'ai trouvée très intéressante parce que les discours étaient vraiment tournés usage et bénéfice. Mmh. On n'a pas parlé geek, on n'a pas parlé technique, et les gens qui étaient dans la salle, de toute façon, hein, n'étaient pas du tout des techniciens. Donc ça, c'était une première remarque. Ensuite, ce que je trouve toujours intéressant, c'est que c'est un sujet qui est à la fois adressé par des grandes entreprises, voire des très grandes entreprises. Alors, Google n'était pas conférencier cette fois-ci, mais ils auraient très bien pu l'être, bien évidemment. Nous avions donc notre champion français, hein, qui est ce local sur, sur le sujet, hein, avec une intervention donc, de Jean-Charles Brandoli, hein, qui revenait sur voilà, les grandes évolutions stratégiques que le groupe Solocal a connu ces derniers mois, ces dernières années, et en quoi et comment donc une entreprise comme la leur se sont positionnés clairement sur ce sujet, et en quoi ils peuvent effectivement accompagner aussi les plus petits acteurs, les commerçants, dans l'appropriation de dispositifs marketing qui étaient encore il y a peu de temps réservés quand même aux plus grosses structures. Donc voilà, donc des gros acteurs. Et puis aussi, pendant cette conférence-là, l'intervention de plusieurs petites entreprises, petites aujourd'hui, mais dont on peut penser qu'effectivement leur avenir est assez prometteur. Donc j'ai cité déjà tout à l'heure FeedsUp, mais ils étaient également à cette conférence. J'aimerais bien citer Home & Go, qui est une société donc, qui était présentée par Sébastien Zera. Et Home & Go, c'est une application donc, destinée au grand public et qui va vous permettre en fait, de vous faciliter la vie, hein, quand vous recherchez un nouveau bien immobilier. Voilà.
Et donc, qui est un monde un peu obscur, si on se parle entre nous.
Alors oui, effectivement, je vois où tu veux en venir. C'est un monde un peu obscur, c'est un monde un peu compliqué. Hein, et c'était un petit peu ce que Sébastien disait en introduction, c'est qu'à la fois, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'acteurs sur voilà, les biens immobiliers. Hein, et puis en même temps, en tant que particulier, c'est toujours un petit peu compliqué. Et eux, ce que j'ai apprécié particulièrement dans cette application, c'est que donc ça mixe à la fois de la géolocalisation, puisque bien entendu, on cherche un bien quelque part, et ça mixe aussi donc de la connaissance data, de l'open data, à savoir que concrètement, en fait, ils sont partis du constat que quand on cherche un bien immobilier, on ne cherche pas simplement de la superficie avec une contrainte budgétaire, mais on cherche aussi tout un environnement économique, un environnement serviciel, etc., etc.
Est-ce que ça va augmenter?
Est-ce que ça va augmenter? Peut-être. Ah, entre autres, effectivement, parmi les informations qu'ils diffusent, c'est effectivement les impôts locaux dans tel ou tel quartier. Et donc là, de façon très graphique, hein, puisque ça se présente sous forme donc de cartes, vous avez la possibilité de repérer, hein, les biens immobiliers qui sont disponibles, leurs caractéristiques, j'allais dire techniques, mais également plein d'informations relative à l'environnement, la présence des écoles, les transports, les commerces, et puis également, parce que ce sont des informations que finalement on recherche tous, même si on ne le dit pas, hein, le profil un peu sociodémographique du quartier. Mmh. Est-ce que c'est un profil plutôt retraité, hein, calme, ou un profil plutôt bobo, ou un profil plutôt jeune étudiant et fêtard? Mmh. Voilà, donc ça, c'était une application qui a été présentée. Hein, et puis également une autre qui est assez innovante. En tout cas, je la trouve assez innovante parce que jouant sur un autre sens qu'on a un petit peu oublié dans le domaine du digital, qui est le son. Et cette entreprise s'appelle Bobler. Hein, et ils ont donc monté... Hein, voilà, toute une mécanique qui va vous permettre de pousser des messages vocaux, hein, que vous allez pouvoir écouter, hein, en mode géolocalisé alors que vous êtes en mobilité, hein, puisqu'ils sont partis aussi du constat assez évident qu'effectivement quand on est en mobilité, à pied ou en voiture, c'est toujours un petit peu compliqué de faire plusieurs choses à la fois, puis c'est même fortement déconseillé.
Surtout si on est un homme.
Donc là, de façon beaucoup plus pratique, vous pouvez effectivement recevoir un message, une information, parce que vous êtes à proximité effectivement d'un endroit ou d'un site.
Moi, pour un peu de touche d'humour, j'attends le renifleur, celui qui envoie des parfums au même moment. Juste pour... Voilà. Muriel, Dans le monde de la géolocalisation, donne-nous un ou deux de tes meilleures sources de connaissances de ce qui se passe dans le monde de la géolocalisation.
Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai cherché justement un ouvrage qui permettait de faire la synthèse de toute cette actualité-là. Il y a très peu de choses, paradoxalement. Il y a très peu de choses. Alors, il y a un site aux États-Unis qui est plus un blog, effectivement, de fond, qui s'appelle Location Based Marketing, communique régulièrement des informations sur la géolocalisation, les nouveaux services. Ensuite, la géolocalisation, c'est une actualité qui est assez dispersée, assez diffuse. C'est la raison pour laquelle moi j'ai monté un Scoopit qui est centré justement sur la géolocalisation et le temps réel et qui me permet justement de centraliser toute l'information qui circule autour de ce beau sujet.
Bon, je mettrai tout ça dans les show notes. Et comment est-ce que on peut te contacter, te suivre, Muriel?
Alors, je suis multicanal. Donc, j'ai un compte Twitter, Muriel Glatin, tout simplement. Je suis présente aussi sur LinkedIn et sur mon Scoopit avec plusieurs topics, dont un dédié à la géolocalisation. Et là, prochainement, à l'occasion de la diffusion, donc de la sortie de ce livre que je fais paraître aux éditions Kawa, je vais ouvrir un blog. Pour continuer l'aventure, parce que le sujet, il est loin d'être clos avec le point final de ce livre. Et ce blog va s'appeler géolocalisationmarketing.com.
Génial. Bon, comme tu dis, la route, enfin, comme on l'a dit au démarrage de notre entretien, la route du consommateur ne fait que s'embarquer, ne fait que se commencer. Merci beaucoup, Muriel, d'être sur le site, sur ce podcast. Et au plaisir de se géolocaliser partout ailleurs.
Merci, Minter. À très bientôt.
Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Land de Laura Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoopit, Gilles Barbier, PDG de Dimaou, ou encore Eric Blau, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon Twitter français, MDIALFR, ou bien sur MDIAL, où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, THEMYNDSET, où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.
The Jim Stroud Podcast explores the discoveries and trends forming the future of our lives. Brain-to-brain communication, robot bosses, microchip implants for workers, and artificial intelligence replacing human workers are all happening now. If you want to know what's happening next, subscribe now to the Jim Stroud Podcast.